Historama, l'histoire d'un jour. Aujourd'hui, le 2 avril 1794, le procès de Danton. Décidé au soir du 30 mars 1794 par les comités de salut public et de sûreté générale, l'arrestation de Georges Danton a lieu le lendemain à l'aube à son domicile de la rue Marat, actuelle rue de l'école de médecine, à quelques pas du club des Cordeliers et du café Procope. Le 2 avril, 13 Germinal en 2, à 10h, il est conduit de la prison du Luxembourg au palais de justice. Une heure plus tard, vêtu de noir, les magistrats pénètrent dans la salle de la liberté. Le jeune et élégant Martial Hermann préside, encadré de deux assesseurs en dessous. L'accusateur public, Antoine Fouquier-Tinville, véritable meneur des débats, siège assisté de son substitut, Jean-Baptiste Lescaut-Fleuriot. Devant eux, à gauche, derrière le greffier, Fabricius Paris s'assoit les sept jurés, soi-disant tirés au sort, en réalité choisis comme purs entre les purs. Danton est appelé après les concussionnaires jugés le même jour. Tout est fait pour le minimiser. À propos de son identité, il répond « Georges-Jacques Danton, âgé de 34 ans, natif d'Arcy-sur-Aube, département de l'Aube, avocat, député à la Convention, bientôt ma demeure sera dans le néant et mon nom au panthéon de l'histoire. » Durant toute la journée, il reste silencieux, écoutant la lecture des rapports consacrés à d'autres accusés, et en particulier à Philippe Fabre d'Églantine. Le lendemain, les débats reprennent à 9h. La foule est impressionnante. Elle s'étend sur les quais de la Seine jusqu'à la place du Châtelet. Un événement inattendu marque le début de l'audience. Décrété d'accusation la veille, le général François-Joseph Westermann prend place parmi les accusés. Le restant de la matinée est consacré à la lecture de l'interminable rapport de Louis Saint-Just qui accable Danton. Ce dernier lutte pied à pied. Il évoque sa conduite politique depuis 1790. Tour à tour, il feint la colère ou manie l'ironie. Qu'on me produise mes accusateurs, que je les et je les replongerai dans le néant dont ils n'auraient jamais dû sortir. Vils imposteurs, paraissez, et je vais vous arracher le masque qui vous dérobe à la vindicte publique. C'est une chose bien étrange que l'aveuglement de la Convention, jusqu'à ce jour sur mon compte, c'est une chose vraiment miraculeuse que son illumination. Depuis 2 jours, Danton est connu du tribunal. Demain, il espère s'endormir dans le sein de la gloire. Jamais il n'a demandé grâce et on le verra voler à l'échafaud avec la sérénité du calme de la conscience. Ses sorties retentissent dans la salle d'audience frémissante et sont entendues au dehors. Des applaudissements en saluent quelques-unes. Au soir tombant, les inculpés sont ramenés à la conciergerie. Danton prononce alors cette phrase prophétique « Quoi qu'on en dise, notre gloire est certaine, nous irons à l'échafaud, mais avant 3 mois, le peuple déchirera nos ennemis par lambeaux. » Pendant ce temps, les magistrats confèrent. En accord avec Hermann, Fouquier-Tinville se rend aux Tuileries pour solliciter les instructions des comités révolutionnaires. La réponse est formelle. Il lui est interdit de faire entendre et de souffrir qu'il soit entendu des témoins en faveur des accusés. L'audience du 4 avril s'ouvre à 9h. Danton s'inquiète de savoir si les témoins qu'il a demandés ont été cités. N'osant pas avouer les ordres reçus, Fouquier-Tinville répond froidement « J'attends la décision du comité de salut public. » Danton bondit. En termes véhéments, il apostrophe les magistrats. « J'en appelle au peuple entier du refus qui m'est fait de faire entendre des témoins, qu'au moins des commissaires soient nommés par l'Assemblée pour recevoir les déclarations des accusés, car ils en ont d'importantes à faire. Moi, je dévoilerai la dictature qui se montre entièrement à découvert. » Les protestations et les requêtes exprimées par Danton sont écartées. Cependant, elles terrorisent Hermann et Fouquier-Tinville, conscients de l'aggravation de la situation. Dans le public, la sympathie grandit en faveur des inculpés. Les magistrats en appellent à nouveau à la Convention. Ils rédigent une lettre à Saint-Just qui se présente à l'Assemblée. Devant les députés, il annonce que la révolte des coupables a fait suspendre les débats de la justice jusqu'à ce que l'Assemblée ait pris des mesures. Avec son habituelle grandiloquence, il grossit le danger et dépeint en des termes alarmants la révolte des accusés qui ont récusé la conscience publique. À la demande de Maximilien Robespierre, la Convention considère que tout suspect de conspiration qui insulte ou résiste à la justice nationale doit être mis hors des débats sur le champ. Réalisant l'effroyable coup qui lui est porté, Danton dénonce la perfidie des comités révolutionnaires. L'assistance s'émeut, s'attendrit et s'agite. Hermann lève en hâte la séance, réduit au silence. Les inculpés sont entraînés par les miliciens à la conciergerie. Le 5 avril, devant un auditoire frémissant, Danton renouvelle son instance pour obtenir l'audition de ses témoins. Fouquier-Tinville répond ironiquement « J'ai moi aussi une foule de témoins à produire contre vous et qui, tous, tendent à vous confondre, mais conformément aux ordres de la Convention, je m'abstiendrai de les faire entendre. Vous, accusé, vous devez aussi renoncer au vôtre. » À nouveau, Danton reprend ses violentes protestations. Le moment est venu d'en finir. Conformément à la loi du 29 octobre 1793, Fouquier-Tinville propose aux jurés de déclarer qu'ils sont suffisamment informés. Obéissant, il demande à se retirer dans leur chambre de délibération, comprenant qu'ils sont perdus, les accusés ne prennent plus aucun ménagement, ils clament leur colère, leur indignation et injurient les magistrats. Danton est le seul à montrer quelque dignité. Vaincu, il parle pour la postérité. « Nous avons assez vécu pour nous endormir dans le sein de la gloire, que l'on nous conduise à l'échafaud. Je savais que notre mort était résolue. « Je ne disputerai point davantage ma vie aux infâmes qui m'assassinent, ils me l'ont rendu trop amer. J'aurais seulement désiré qu'elle ait été plus utile à ma patrie que j'aimais tant, ma mémoire sera vengée. » Fouquier-Tinville invoque les sorties indécentes des accusés, les brocards, les blasphèmes qu'ils ont l'impudence de prononcer contre les juges. Il demande au tribunal de prendre des mesures proportionnées à la gravité des circonstances. Conformément à sa réquisition, Hermann et ses assesseurs ordonnent que les inculpés soient ramenés en prison. Malgré leurs hurlements, leur défense désespérée, les 16 accusés sont conduits de force à la conciergerie. Bientôt, la porte de la salle d'audience s'ouvre, les juges et l'accusateur regagnent leur siège, les 7 jurés les suivent, ils se réinstallent à leur banc et aussitôt se déclarent suffisamment instruits. Il ne reste plus qu'à leur soumettre les questions préparées par Fouquier-Tinville. Un instant encore, les jurés se retirent pour faire mine de délibérer. Rendu à l'unanimité, le verdict considère qu'il a bien existé une conspiration tendant à rétablir la monarchie, à détruire la représentation nationale et le gouvernement républicain. L'édit Lacroix, Danton, Hérault de Séchelles, Philippot, Westermann et Desmoulins étaient convaincus d'avoir trempé dans cette conspiration. Il n'y a plus qu'à rendre le jugement. Les 15 coupables sont condamnés à la peine de mort. Leurs biens sont acquis à la République. La sentence est mise en exécution dans les 24 heures sur la place de la Révolution. C'est au greffe de la conciergerie que notification est faite aux condamnés de l'arrêt rendu. Le départ pour l'échafaud est prévu le 5 avril à 16 heures. Les condamnés prennent successivement place 5 par 5 dans 3 charrettes peintes en rouge qui s'ébranlent encadrées de gendarmes à cheval et de gardes nationaux. La journée est splendide. Une foule immense encombre les artères empruntées par le cortège, le pont au change, le quai de la messagerie, de la mégisserie, excusez-moi, la rue de la Monnaie, la rue Honoré, dont le Saint a disparu, l'ancienne rue Royale, devenue rue de la Révolution. Le peuple de Paris est curieux de voir, s'en allant vers la mort, ces hommes qui ont joué un si grand rôle dans l'épopée révolutionnaire. Le bel héros de Seychelles qui se montre calme et indifférent, Fabre d'Églantine accablé, Desmoulins parlant sans arrêt, si agité qu'il est attaché, chemise déchirée jusqu'à la ceinture, Danton enfin tranquille et dédaigneux. Place de la Révolution célèbre la sinistre silhouette de la guillotine, les charrettes s'approchent de l'échafaud, héros de Seychelles est désigné pour y monter le premier. Il veut auparavant embrasser Danton, mais un gendarme s'interpose et sépare brutalement les deux hommes. Danton assiste à l'exécution de tous ses compagnons. Il est sacrifié le dernier. En montant à l'échafaud, il crie au bourreau « N'oublie pas surtout de montrer ma tête au peuple, elle est bonne à voir ». Nous allons marquer une pause musicale dans cette émission Historama avant de retrouver la chronique littéraire Un jour trois livres préparée par Emmanuel et que je vous présenterai. C'est Louis Chédid qui nous accompagne en chanson. Nous écoutons l'un de ses premiers succès. C'était en 1978, « T'as beau pas être beau ».
Y'a des colorants pas marrants, du mazout dans les océans, des trucs bizarres dans nos assiettes, pauvre beefsteak. La petite Juliette et son Roméo tournent à poil dans les films porno. Y'a pas plus d'amour sur pellicule que de fleurs sous le bitume. T'as beau pas être beau, oh, 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 oh. Monde cinglé, hey, hey, hey. J't'ai dans la peau, oh, 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 oh. J't'aime, t'aime, t'aime. Y'en a qui dégainent leurs pétards pour une poignée de dollars. Y'a des bombas et des bombages qui jouent à cache-cache. Y'a le KGB, y'a la CIA, le gros Idi Amin Dada, oh. Du sang à la une des gazettes, pauvre planète. Oh. T'as beau pas être beau, oh, 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 oh. Monde cinglé, hey, 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 hey. J't'ai dans la peau, oh, 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 oh. J't'aime, t'aime, t'aime. Faut dire qu'il y a quand même des mecs qu'on dit soleil j'ai, dans la tête j'ai, sur ma planète j'ai, des mecs qui pensent pas j'ai, que c'est chacun pour soi j'ai, qui se tendent les bras j'ai, sur ma terre à moi j'ai, cinglé, j't'ai dans la peau, oh, 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 oh. J't'aime, t'aime, t'aime, t'as beau pas être beau, oh, 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 oh. Monde cinglé, j't'ai dans la peau, oh, 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 oh. J't'aime, t'aime, 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 t'as beau pas être beau, oh, oh, oh. Monde cinglé,
Vous écoutez Historama, l'histoire d'un jour, la chronique littéraire Un jour, trois livres. Ça sera quatre exceptionnellement aujourd'hui. Préparé par Emmanuel pour commencer Le banni des hautes terres d'Alain Delage aux éditions de Boré. Les hautes terres, c'est l'Aubrac. En mars 1890, Armand Ligourel, tout juste sorti du conseil de révision qui l'a déclaré apte au service militaire, se retrouve injustement accusé d'un assassinat. Il réussit à s'échapper vers l'Aubrac, terre de son père, où il arrive pour la montée aux estives. Il va y découvrir le métier de buronnier, les valeurs de ces montagnards et leur sens de l'honneur sous leur dehors rustre, au milieu d'étendues immenses, dans un climat souvent rude. Son séjour dans cette petite Sibérie sera l'occasion aussi de percer les secrets de sa famille paternelle. Une histoire de vengeance hors du commun qui remonte à plus de deux générations. C'est pour nous l'occasion de nous plonger dans l'univers des burons. Le buron, c'est une cabane, un petit habitacle en pierre couvert de lauzes, utilisé par les hommes du 25 mai au 13 octobre, le temps des estives, durant lequel les buronniers sont chargés des vaches. Le banni des hautes terres d'Alain Delage, c'est aux éditions de Boré. Les souvenirs et les mensonges aussi à Honfleur en 1938. Pauline brave l'opinion publique en épousant Joachim, un réfugié allemand qui a fui la montée du nazisme. Les unions franco-allemandes sont mal acceptées et le couple est mis à l'index. Quand la guerre éclate, Pauline quitte tout pour suivre son mari entré en clandestinité. En 1946, dans un Berlin occupé par les Alliés, Hilda, la sœur de Joachim, tombe amoureuse d'un officier français. De cette liaison naît une enfant, Adeline, qui disparaît mystérieusement. Hilda se lance dans une recherche désespérée pour la retrouver. 70 ans plus tard, à Cabourg, Valentine et Magda, deux jeunes musiciennes, deviennent inséparables. Valentine est normande et Magda, l'arrière-petite-fille de Pauline, allemande. Intriguée par l'histoire familiale de son amie, Valentine part sur les traces d'Adeline. Les souvenirs et les mensonges aussi de Karine Lebert, c'est aux éditions Presse de la Cité, dans la collection Terre de France. Le bonheur en Corrèze de Denis Tillinac, c'est aux éditions Omnibus. Le bonheur en Corrèze, c'est une anthologie de 8 romans corréziens de l'auteur récemment décédé avec des thèmes qui lui sont chers. La quiétude face à la sauvagerie parisienne, le culte de l'amitié, le rejet des modes et des excès de la modernité, les pièges de la nostalgie, les ambitions bafouées. Le tout sur un ton mélancolique plein de retenue en demi-teinte. Denis Tillinac nous décrit ainsi les mœurs de notre époque sur plus de 50 ouvrages, romans, essais, récits, poésies, et cela depuis 1979, en commençant par Spleen en Corrèze. Le bonheur en Corrèze de Denis Tillinac chez Omnibus. Et pour terminer, Le patio bleu, c'est toujours de Denis Tillinac, c'est son dernier roman aux éditions Presse de la Cité. Un groupe d'amis bourgeois d'âge mûr a l'habitude de se réunir dans le patio bleu autour de la figure charismatique de Marianne. À l'instar du narrateur Énarque, qui a mené une carrière de diplomate sans ambition ni conviction, ils sont fatigués de leur vie parisienne, du nouveau monde qui s'impose et dont ils se sentent exclus et croient trouver à Condom, petite ville du Gers, le havre rassurant où se poser avant le spectre de l'EHPAD. Une longue amitié lie Marianne et le narrateur, une amitié totale dans laquelle l'amour n'est jamais loin. Passé plus ou moins lointain et présent s'entremêle dans le récit intimiste et mélancolique d'un personnage qui promène un regard aussi lucide que désenchanté sur les choses et les gens. Sur les craquements d'une société illustrée par le mouvement des Gilets jaunes, c'est l'opposition entre Paris, Eldorado factice, et la province assoupie et en déshérence dont il est question dans ce roman. Le patio bleu de Denis Tillinac, c'est son dernier roman et c'est publié aux éditions Presse de la Cité. Ainsi s'achève cette émission Historama que j'ai eu grand plaisir à vous présenter. Et nous nous séparons en chanson avec toujours Louis Chédid, un titre de 1985, Anne Masserane. Thank you.
l'avenir. Anne ma sœur, j'arrive pas à y croire, c'est comme un cauchemar, seul cafard. Anne ma sœur, en écrivant ton journal du fond de ton placard, Anne ma sœur, tu pensais qu'on n'oublierait jamais mes mauvaises mémoires. Elle ressort de sa tanière, la nazi nostalgie. Croix gammée, bottes à clous, oui, toute la panoplie. Elle a pignon sur rue, des adeptes impartis. La voilà revenue, l'historique hystérie. Anne ma sœur, les mêmes discours, les mêmes slogans, les mêmes aboiements. Anne ma sœur, j'aurais tant voulu te dire, petite fille martyre. Anne ma sœur, tu peux dormir tranquille, elle reviendra. Anciens d'années, beaucoup de déjà-vu, beaucoup trop d'indulgence, trop de bonnes manières pour cette nazie nostalgie qui ressort de sa tanière. Comme hier, Anne ma sœur, si je te disais ce que je vois venir, Anne ma sœur, j'arrive pas à y croire, c'est comme un cauchemar, sale cafard.